RMC.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Fred Piquion ce soir. Fred Piquion, le Stéphanois, messieurs dames, et oui, puisqu'il se revendique comme tel. C'est vrai, tu l'as dit. Attends,
je sais pas trop. Il a
joué.
J'ai dit surtout que j'ai passé mes plus belles années dans le club de Saint-Etienne, même si ça s'est mal terminé.
Mais quand t'étais gosse, c'était quoi ton club? Ton le club qui te faisait rêver?
Bah à Paris, je suis né à Paris. Enfin, je suis né à Paris. Je suis parisien. J'ai grandi à Paris.
Donc c'est le PSG quoi.
Voilà, c'est PSG à l'époque.
Donc une rectification importante.
Ah oui, historique, c'est PSG.
Bah oui.
Parce
qu'il a jamais eu la chance de pouvoir porter ce maillot qu'il n'aime pas le club.
Non mais
c'est le truc des journalistes.
Quand on est dans un club, forcément on est de la ville.
Les footeux, là vous changez de club, vous faites un bisou avec Husson, trois minutes plus tard.
Non mais ça c'est on est content.
Donc après c'est intéressant de savoir quand t'as fini, savoir vraiment pour quitter quoi.
Non, pour le club dans lequel j'ai passé mes meilleures années, je dis que c'est Saint-Etienne et d'ailleurs je les suis toujours. Je suis allé les voir au parc il y a pas longtemps. Tous les ans, je vais les voir au parc. Je suis mes équipes et c'est vrai qu'à Saint-Etienne, j'ai passé mes plus belles années de foot.
Fred Piquion, Daniel Riolo, Jean-Pierre Nadir, si vous nous rejoignez, fondateur d'Easy Voyage. T'as un petit plan pour la Toussaint là?
Il y en a plein.
Pour ceux qui utilisent les dernières minutes.
Mais un plan pas cher, un plan d'un super rapport qualité-prix. Qu'est-ce qu'on veut?
Les deux.
Là, t'as de la Tunisie, donc parce que Djerba, il va faire 24-25 degrés, donc tu trouves du 350 € en pension complète. Donc c'est quand même le super plan. T'as de la Thaïlande, Phuket, super.
Une semaine, 350 euros, c'est quand même une cabane en bois.
3 étoiles à Djerba. Donc parce que là on parlait d'un bon plan, c'est effectivement le super bon plan. Ensuite donc un peu plus loin, donc je parlais de la Thaïlande, donc là t'es plutôt autour de 1200, donc à Phuket dans des super conditions. T'as la République dominicaine, hein, les Caraïbes, la République dominicaine, ça marche toujours très fort. Et donc là c'est pareil, tu trouves du séjour donc entre 900 et 1000 euros avec soleil garanti, Punta Cana, super plage. Voilà, donc en séjour t'as ça, et puis après en circuit t'as des choses effectivement donc un peu plus loin, un peu plus cher. Donc et là t'as une destination qui monte très fort, qui est la Colombie.
Ah oui, c'est vrai que ça monte à mort.
Ouais, la Colombie, parce que alors pour plusieurs raisons. D'abord sans doute qu'il y a peut-être un peu de ça, mais enfin c'est surtout parce que les FARC ont arrêté tout le monde.
C'est aussi ça un peu cool quand même.
Voilà, c'est un peu plus tranquille. Tu veux changer le rapport psychologique?
C'est qu'avant tu risques un peu ta peau, plus maintenant. Je pense à Cuba.
Deuxième phénomène qui est quand même narco, tu vois, narco sur
Netflix provoque un flux touristique.
Oui, aujourd'hui effectivement, donc c'est un vrai levier de promotion des destinations. Tu vois, donc bien sûr ça, on a vu très belles images de la Colombie, donc les gens pensaient pas que c'était aussi chouette. T'as un autre phénomène qui est le fait que Cuba soit plein, donc il y a pas de place à Cuba, tout le monde veut aller à Cuba, donc quand tu veux pas aller à Cuba, t'as un petit déport donc vers la Colombie où tu penses qu'il y a un peu, tu passes de la salsa donc à la bachata, mais t'es un peu dans la même ambiance on va dire. Et puis t'as aussi une dynamique très forte de certaines villes comme Medellín qu'on maintenant on met en avant comme étant une ville qui est autour de l'écologie, autour du vivre ensemble, a pris un grand nombre d'initiatives et une ville un peu modèle, donc un peu comme Vancouver, un peu comme San Francisco, donc voilà, donc la Colombie une destination qui monte.
Medellín, du cartel au vivre ensemble.
Non mais Jean-Pierre, il est génial parce que tu l'écoutes, t'as fait le tour du monde en 3 minutes.
Oui, ça y est, alors, la destination qui cartonne, il n'y a pas de place, donc c'est pas la peine de chercher, c'est le Japon. Le Japon, depuis 3 ans, là, tout le monde veut aller au Japon, ça fait un véritable malheur, ce qui est assez incroyable, puisqu'il y a 15 ans, personne ne voulait y aller, c'était une image d'industrie, donc on avait les cheminées qui fumaient, et puis maintenant, donc au contraire, c'est la tradition, c'est le chaînon manquant, c'est la culture, c'est la gastronomie, puisqu'ils ont envahi le monde à la gastronomie, c'est les mangas, et donc le Japon est extrêmement à la mode. Voilà les amis.
C'est parfait. Cette petite photographie des vacances de la Toussaint pour tout le monde.
Bon, équipe type de Nantes maintenant.
Attends, on n'a pas fini avec Vaïd, parce que Pierre est toujours là.
Alors, c'est quand même une belle destination aussi.
Nantes en vacances?
Les Canaries.
C'est beau, Pierre-Yves, bravo.
On conclut sur Vaïd. Quoi d'autre à la conf aujourd'hui? Parce que du coup, j'ai perdu le fil là. J'étais parti entre le Japon et la Colombie.
Non, en fait, il essaye de faire comprendre qu'il y a beaucoup de boulot, que ça va durer un moment, qu'il espère sauver ce club. Mais il y a tout l'aspect nostalgique aussi pour Vaïd, et il retrouve pas ce qu'il a connu il y a 30 ans. Donc ça, est-ce que ça va pas jouer aussi? Et est-ce que c'est pas inquiétant, quoi? Est-ce qu'il va pas être pris là-dedans et que finalement, il va pas avoir du mal à refaire vivre ça? À mon avis, c'est compliqué quand même.
Alors, dernier petit extrait d'ailleurs, Pierre-Yves, tu lui as posé la question de savoir quelle était sa méthode, la réponse de Vaïd.
Moi, je sais pas qu'est-ce que je veux, mais toi, c'est toujours, vous savez, depuis 20 ans, ces mêmes questions me posaient, mais toi. Et par hasard, on gagne tout le temps. On a un succès partout. Mais le travail. Il y a un petit peu de compétence. C'est ça qui, vous n'êtes pas premier. Personne n'a jamais expliqué le travail va sur le terrain. Toujours guignol ça de le travail, je ne sais pas si vous assistez au travail tactique aujourd'hui, son adversaire, toutes les manches.
Voilà, le travail, on me dit que je suis un guignol, mais moi je travaille en gros pour traduire, ceux qui n'ont pas compris.
Il y en a des références aux guignols qui à l'époque lui ont fait vraiment beaucoup de mal, et je trouve que la façon dont c'était fait était particulièrement injuste, un petit peu comme on a beaucoup fait à Jardim.
Reconnaissons que c'était quand même assez drôle.
Oui. Non mais, non mais que ce soit drôle, ok, que ça lui
quand
fasse.
Quand t'avais Vaïd et Louis au guignol, pardon, t'étais mort de rire.
Je pense que ça l'a plombé. Parce que quand on parle, non mais après.
Ça l'a enfermé dans une image.
Moi, je suis pas pour la censure. Mais ça l'a enfermé dans un personnage. Quand on dit que les joueurs sont poreux à ce qui se passe dans la com et autour, je pense que ça l'a aussi décrédibilisé aux yeux des joueurs. À l'instar de Louis, d'ailleurs. Donc ça joue aussi. Et, là, pareil, moi, je trouvais que c'était très déplacé, à force, sans arrêt, de canarder sur l'accent de Jardim, comme a fait le quotidien. Ok, c'est drôle quand t'es neutre, tu regardes et tout, mais ça peut être excessivement violent pour la façon dont les joueurs vont percevoir le mec et tout ça.
Bon, après, Vaïd, il dit, Vaïd a réussi partout,
pour lui ressortir. Bah, il a joué nulle part.
Bon, il est passé.
Non, globalement, il s'est bien débrouillé partout, il est passé. Il a eu la première
année. Est-ce que le PSG, c'est une réussite?
Non, mais lui va te dire qu'il gagne une Coupe de France et que sur la première année, ils font deuxième.
Donc,
la deuxième année, il se plante. Il fait deuxième et il gagne une Coupe de France. Après, ça se termine mal l'année d'après. Mais au moment où il reprend le club,
il a des sélections, il est capable de s'embrouiller avec les mecs qu'il vire avant les Coupes du Monde, pour lesquels il a qualifié l'équipe. C'est quand même étrange.
Avec l'Algérie, c'est lui qui dirige l'Algérie au moment du 8e.
Là, c'est la seule fois où il va. Je pense que
ce que fait l'Algérie dans cette Coupe du Monde, c'est quand même notable.
Tout ce qu'il fait avec l'Algérie, c'est absolument incroyable, parce que c'est un pays où on voit que personne ne réussit en tant d'entraîneur, où il y a des problèmes tout le temps, où les joueurs s'en foutent. Et il avait réussi à créer un état d'esprit assez intéressant. Et le Japon, c'est parce qu'il a pas voulu, il voulait pas qu'on fasse l'équipe à sa place, donc c'est toujours pareil avec lui, hein.
Ouais, mais parce qu'il juste il a mis beaucoup de rigueur dans cette équipe d'Algérie, c'est pour ça. Et après, la rigueur, par exemple sur le Japon, et la rigueur, ils l'ont.
Alors, par exemple, Fred, tu vois Tourelle aujourd'hui qui fait des calinous, qui prend les joueurs dans les bras, qui fait des bisous à Neymar.
C'est les mecs du PSG ont besoin de calme.
Donc t'as la calinothérapie de Tourelle et puis t'as la calage-thérapie de Vaïd.
Ouais, mais Vaïd, il fait tout ça. Après, il faut avoir le discours devant la presse et le discours devant ses joueurs. Alors effectivement, quand il arrive dans le vestiaire, peut-être qu'il leur dit voilà, il y a ça, il y a telle et telle chose à travailler. Mais il le dit pas comme ça. Là, c'est vraiment très très fort ce qu'il dit. Mais c'est surtout aussi pour piquer les joueurs au maximum. Il veut, en tout cas, les avoir à 200%. N'importe lequel, hein. Il peut mettre aujourd'hui, il peut aller chercher un joueur de la CFA et de le mettre dans l'équipe, hein, s'il trouve que justement le titulaire il est pas bon. Et c'est ça aussi la force de Vaïd.
Et puis Tourelle, il a quand même réussi à faire en sorte que Neymar et Mbappé maintenant redescendent pour défendre. Donc a priori, c'est qu'il fait pas que des bisous. Il a quand même un schéma tactique et les joueurs ont l'air d'appliquer. Donc à part en Coupe d'Europe, mais sinon pour le reste, c'est effectivement, il y a un début de réalité. Aliotti, ce qui est intéressant, c'est qu'au premier match, il a repris grosso modo les mêmes joueurs et la même équipe et le même dispositif que Cardozo. Donc cette fois-ci, il a eu le temps de travailler. On va voir, très intéressant, samedi, qui y met. Moi, je mettrai un petit billet sur Palois, en défense centrale. Donc c'est quand même le type de joueur.
On va relancer Palois que Cardozo avait foutu à la cage.
Ben oui, parce que c'est Cardozo, il voulait que tu tripotes le ballon et que tu repartes de ta surface pour remonter tout le terrain. Donc à une touche de balle. Donc
c'est pas la spécialité de Palois.
Voilà, on va commencer par rassurer. Palois, il correspond plus à ça.
Il va défendre en tout cas.
Pierre-Yves, t'as les mêmes infos ?
Ah oui, Palois va retrouver une place, effectivement, c'est sûr.
Bon, après l'actu du moment de Nantes, il est temps d'attaquer, messieurs, dames, notre opération équipe type, équipe pip. On y va. Alors, vous savez qu'on a fait voter nos internautes toute la journée.
Ça me fait peur, hein,
comme
déjà
de coutume.
Hier, Moi, je te préviens, tout de
quoi
suite. Soyons
c'est
clairs.
Les votes des internautes,
je ne vais pas me mêler
Daniel.
De cette équipe type parce qu'il y a Pierre-Yves, parce qu'il y a Jean-Pierre et ils connaissent. Non, mais toute équipe qui sera citée sans Max Bossis et Henri Michel, je ne réponds plus de rien. Je ne dois rien savoir. S'il y a une équipe qui est citée,
Henri Michel numéro 10 et Max Bossis dans l'équipe.
Henri Michel, pour moi, la personne n'a même plus le droit de s'exprimer.
Mais est-ce qu'on peut tenter des variantes?
Alors, Henri Michel, Bossis, et après vous faites ce que vous voulez.
Écoutez-moi cette équipe type. Écoutez-moi cette équipe type des internautes. Ils ont mis Gondé dans les buts.
Équipe type.
Ah non, c'est la type là. Gondé dans les buts. Oui, Gondé.
Gondé.
Ils ont fait une défense qui est la suivante. Bossis et Armand latéraux.
Gilbert, Gondé dans les buts.
Oui, Gondé dans les buts. C'est le gardien qui était le plus cité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas Landreau ou Bertrand Devane? Voilà. C'est comme ça.
Gondé, c'est un buteur, hein, Gondé.
Daniel
Léon à la rigueur dans les buts ou Jean-Paul Bertrand de Man,
De Bertrand de Man, on va tous le mettre, je l'espère.
Je fais la défense.
Je comprenais pas.
Bossis, Armand latéraux, parce que Bossis a joué latéral. Faut le rappeler.
Moi, je l'ai mis Bossis latéral, je vous signale. Pour une raison simple, c'est qu'après, ça te permet en défense centrale d'en mettre d'autres.
Défense centrale, ils ont mis Fabry et Yepes.
Alors, moi, j'ai mis Fabry de Sailly. Parce que c'est plus complémentaire, je pense, que Fabry Yepes, c'est plus romantique, mais Fabry de Sailly, ça me semble plus costaud.
Ouais, moi, aucun des deux, vas-y, continue.
Henri Michel est au milieu de terrain, accompagné de Buruchaga,
Endoram,
Darrocha.
Pas de récupérateur, moi j'ai eu Makelele, pas de Darrocha. Moi j'ai fait Michel d'un côté, Buruchaga de l'autre, Endoram évidemment en point, moi je joue en triangle et Makelele devant la défense pour récupérateur. Makelele, c'est deux Matuidi. Tu peux pas te passer de Makelele.
Makelele jouait pas là, non.
Je sais, il jouait sur le côté, je sais, mais là je l'ai replacé.
Pour ça que
j'ai dit, on a le droit d'avoir un peu de variante. T'as raison,
parce que vous voulez rentrer des mecs dans les cases.
Ouais.
Et en attaque,
ça va faire mon truc, hein, Makelele devant la défense.
Alors en attaque, Daniel, je t'annonce que le nom qui a été le plus cité, à ton avis, c'est qui?
Bah, c'est Touré ou Eliodic.
Entre José Touré, Eliodic
et Loco, Touré, Eliodic.
Le joueur offensif le plus cité est Reynald Pedros.
Mais c'est pas un avant-centre.
C'était moins de 40 ans qu'on votait, non?
Mais c'est pas un avant-centre, mais c'est le joueur offensif qui a été le plus cité.
Oui, mais il faut un 9, il n'y a pas de 9 dans l'équipe.
Le 9 qui a été le plus cité, c'est Viorel Moldovan.
Ouais, parce que... C'était un très bon joueur, mais Eliodic,
c'est soit on dit équipe type ou soit on dit équipe
de cœur.
Non, mais là, en fait, on réceptionne à peu près 200 équipes par jour et on regarde les mecs les plus cités.
C'est flippant parce que depuis le début de l'opération, ça en dit long sur la culture foot.
Alors, redonne-nous voir ton équipe, là, Jean-Pierre, ton équipe type.
Moi, Bertrand Devane dans les buts, évidemment, j'étais avec Landreau, mais à la fin, donc j'ai arbitré Bertrand Devane. Donc, à l'évidence.
Attends, qui a joué le plus longtemps? Entre les deux,
il a gagné. Bertrand Devane a 650 matchs, je pense, à Nantes, et Landreau en a un petit peu moins. Et en sélection, en équipe de France, ils ont 11 chacun. Donc, ils sont à égalité. Mais Bertrand Devane, c'est quand même l'image du FC Nantes. Il a incarné la longévité. Et puis, il a en plus, c'est le pont entre deux générations. Donc, je le mets plutôt à la place de Landreau. Donc, en défense centrale, j'aurais mis, effectivement, j'ai De Sailly, Fabry, Yepes. Donc, j'ai mis De Sailly et Fabry. Du coup, j'ai poussé Bossy sur le côté. Il pouvait jouer partout, Bossy, de toute façon. Donc, et il a joué donc latéral, et puis j'ai gardé Tussaud, même s'il nous a trahi en signant à Bordeaux, et que ça a été un moment douloureux pour le club. Ensuite de quoi, je mets un récupérateur, on peut pas jouer sans récupérateur. Là j'avais quand même plusieurs noms intéressants à ce poste-là. Par exemple, j'adorais Coé qui était à Nantes.
J'ai adoré Benoît Coé.
Voilà, a été un joueur formidable. Bon,
Ferry qui est revenu souvent.
C'est Ferry.
Ferry, mais le fameux but, c'est Coé qui fait le fameux but, donc Pedros Loco, la touche rapide, c'est Coé qui l'a fait. Donc donc Makelele, parce que c'est pour moi c'est N'Golo Kanté encore une fois, donc de l'époque. Michel, relanceur, donc Michel d'un côté, Buruchaga de l'autre, parce qu'il y a pas là il y avait pas de choix, c'était l'évidence. Endoram, parce que c'est l'un des plus beaux touchés qu'on ait vu, la classe absolue. Et après devant, à partir du moment où t'as ça comme équipe, il te reste de toute façon deux incontournables qui s'imposent de même. Tu peux pas faire une équipe sans José Touré, et elle dit qu'en neuf, c'est le plus grand neuf qu'on ait eu donc à Nantes de tous les temps, à l'évidence.
Aziz Makoukoula peut rentrer à la maison.
On va en parler dans l'autre équipe, je pense.
Très bien. Avant d'avoir l'avis de Pierre-Yves, on va accueillir Charles au 32-16 qui est là, supporter nantais. Salut Charles.
Bonsoir.
Salut Charles.
Bonsoir Daniel, bonsoir Gilbert, bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Est-ce que l'équipe de Jean-Pierre Nadir te plaît?
Oui, beaucoup. C'est très proche de la mienne. Alors, l'équipe type, moi ce que j'ai mis Landreau. Vu que j'ai 22 ans, forcément, je suis...
Plus sensible.
J'ai été bercé par les exploits de Landreau, par le pénalty de Ronaldinho et et tout ce qui
par la Panenka,
la Panenka, j'ai dit aussi, ouais.
La Panenka face à Richard m'a fait très mal en 2004. Ouais. J'ai encore la, l'écharpe de finale de Coupe de la Ligue, ouais, Sochaux-Nantes, un moment douloureux. Ouais. J'ai mis en latéraux, j'ai mis, ben, comme l'équipe type de l'internaute, Armand Bossis. Bossis pour toute la carrière, pour tout ce qu'il a fait. Armand pour une question de génération aussi, beaucoup. Et en défense centrale, j'ai mis Fabri Yepes. C'est mon côté, j'aime bien le côté uruguayen, défense rugueuse. Les coups de coude, les bonnes grosses savates.
J'aime bien ça, toi. Il n'y en a aucun des deux qui est uruguayen. Non. Donc il y a un colombien,
oui,
et un
argentin. Ils sont tous les deux argentins, je sais bien.
Écoutez,
brutasse. Au milieu, j'ai mis Carrière, Michel.
Ah, Carrière, c'est vrai qu'il n'a pas été cité jusqu'à.
Carrière, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait très mal qu'il aille à Lyon, même si c'était l'équipe phare, mais Carrière, très très bon joueur. Enfin, j'aimais beaucoup. Et en attaque, j'ai mis Ali Özic et Touré, deux incontournables, et j'ai mis un troisième joueur qui m'a un peu bercé mon enfance, Moldovan, qui était quand même très très bon, et son match face à Manchester, enfin tout de suite, un ensemble de choses qui font que Moldovan reste un peu comme un super joueur.
Bon, pour l'instant, j'ai pas un Toulalan.
Ouais.
J'ai pas un loco.
Ouais. C'est trop neuf. Hein.
Oui. C'est trop neuf. C'est trop
Toulalan.
Non, mais j'ai pas Wedek.
Non, mais Wedek, Wedek, il a pas sa place si tu mets Touré et Aliodi.
Si tu mets Touré et Aliodi, voilà, c'est comme ça.
Tu le mets où,
tu vois, le mettre. Si tu fais une attaque à trois, tu peux aller mettre Loco, Aliodi, José Touré, Henri Michel, Buruchaga, et après tu choisis le 6 que tu veux. Tu peux faire un 4-3-3.
Tu viens à
ah non.
Ah, tu vois, le problème, c'est
que oui, Endoram.
Tu peux dans pas. Dans son équipe à notre ami, il n'y a pas Endoram.
Tu peux pas enlever Endoram, il était trop
après,
fort.
Après, Endoram, c'est les années 90, hein, Endoram.
Mais ouais, l'année, homme du titre de 95.
En parlant avec des supporters de FC Nantes, donc des anciens, comme on dit.
Plus anciens que Jean-Pierre, tu veux dire.
Ouais. Moi, ils m'ont donné d'autres noms. Moi, par exemple, Michel Bibar sur le côté, ils m'ont donné. On m'a donné William Ayash, tu vois.
Moi, je mets Rigaud en défense. Je mets Tussaud à gauche. Je mets Bossis.
Et Ayash, tu le mets pas à gauche?
Si, bah, du coup, il met Bossis au centre.
Ouais, tu le mets.
Je mets Bossis sur l'axe. Après Armand, il est quand même l'homme de le titre de 2001. Ouais. Donc pourquoi pas aussi quoi, mais pour marier un peu les différentes générations, mais c'est sûr qu'Ayash, Tussaud, Bossis, Rio,
t'as des Fabrice Poulain, t'as des Thierry Tissot, ouais. t'as des Louis Amis.
Tu mets mettre Loïc Amis, c'est les ballons qu'il lui donne.
Baron Kelly, Rampillon, enfin après tu peux faire toute une liste.
Il y a eu une tripotée de sacrés joueurs.
Messieurs, maintenant on va passer au truc qui finalement fait le plus marrer, c'est-à-dire l'équipe pipe. Et là, j'en appelle à Pierre-Yves Leroux.
Ah là, il faut qu'il y ait du blé. Hein.
Mon petit Pierre-Yves.
Ouais, c'était trop facile, l'équipe type. Et puis, j'aurais des problèmes avec les gens que je croise souvent si je les mets pas dedans.
Ah ouais, mais là, si tu croises les mecs de l'équipe pipe, tu aurais des problèmes aussi. Ouais. Ils sont peut-être loin de Nantes, ouais, je l'ai dit aujourd'hui.
C'est ça, exactement.
qu'on a oublié, lui, quand même. Un nom, au moins.
Comment?
T'aurais mis qui, toi, qu'on n'a pas cité dans l'équipe pipe?
Vous avez dit Philippe Gondet dans les buts. C'est quand même le meilleur buteur. 98 buts en 115 matchs. Philippe Gondet, c'était formidable. Bernard Blanchet aussi.
Mais c'est Hugo Vargas qui a dit ça. Ouais, voilà, pas bien,
on est loin de chez vous.
Ouais, Hugo Vargas, c'était formidable aussi.
C'est vrai.
Non, mais il y en avait trop.
Bossis et Henri Michel, tu les mets sur certains.
Ah, bien sûr.
Ok.
Bon. Et j'ai mis Fabien Barthez dans les buts de l'équipe pipe.
Oui.
C'était l'un.
Ouais. On t'écoute, Pierre-Yves.
En défense, j'ai mis Alexander Viveros, Michael Gravegard, Douglao.
Ah, Douglao.
Et Adriano. Douglao, surnommé Duglan quand même par les supporters.
Sympa.
Au milieu de terrain, j'ai mis Olartico Echea. Si certains s'en souviennent, champion du monde avec Buruchaga. Babovic.
Oh, Babovic, le feuilleton.
Il a pas beaucoup joué, Babovic. Ouais.
Messi des Carpates, les gars.
Mais il avait été annoncé comme, exactement.
Il arrive le même jour que...
Et en fait, il est complètement caractériel, le gars.
Ouais, il arrive le même jour que Djordjevic. Et finalement, c'est Djordjevic dont on se souvient. Et Nordine Boukari aussi en milieu de terrain.
J'ai mis aussi, moi. Ouais.
Oui. Et puis, alors, devant, il y avait vraiment le choix. J'en ai mis trois. J'ai mis le fameux Makoukoula, qui a marqué un but avec le FC Nantes. Ouais. Florine Bratou, qu'on a marqué deux. Et Victor Bonilla, dont personne ne se souvient.
En effet. Alors, ce qu'on peut dire en plus, c'est que dans les noms qu'ils citent, il y a plein de gens qui ont été les plus gros transferts. Makoukoula, c'est 5 millions d'euros. On a Nantes, ils ont eu chic pour trouver un tas de trucs, un tas de types, donc à 4-5 millions d'euros.
Ah non, il y en a un autre qui pouvait être dans l'équipe, dans l'équipe PIP, et qui avait coûté du blé. Mm-hmm. C'est celui qui venait du Verder, le, Klasnić.
Oui, mais attention, c'était un sacré joueur quand même, Klasnić.
Ouais, le problème, c'est qu'il est arrivé.
Il y a du blé quand il arrive, il y a du renom. Après, c'est vrai qu'il est blessé et que il arrive, il est mort, quoi. Il est cramé, le mec.
Dans l'équipe PIP, t'as un autre nom, Jean-Pierre, là, qui a pas été cité?
Moi, j'aurais mis aussi Stojakovic, hein, le notre gardien, là, il prenait but sur
Stojakovic.
Qui maintenant, qui après a fait carrière en équipe nationale, mais qui, par contre, à Nantes, a vraiment été, très mauvais.
C'est Loussouarn? Non, Loussouarn n'est jamais, toi, Loussouarn?
Non, Loussouarn, il est dans la bonne période. C'est le troisième gardien, en plus.
Oui, c'est le troisième gardien, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, comme, il en a quand même donné beaucoup, hein, donc, Vivaros étant mon favori. Donc, dans le côté petit, petit rond qui fait un bouclier odique.
Oui, alors.
Charles, une équipe. Rapidos, des joueurs de l'équipe PIP que tu as qu'on n'a pas cité.
Alors, moi, j'ai mis Barthez pour sa boulette contre Savidan. Contre Sedan, avec Savidan, la boulette, elle restera dans la tête, dans les mémoires. C'est extraordinaire. Barthez, l'arrivée en fanfare, champion du monde, la totale. En gardien, j'ai mis Cubillier et Akwasaga en latéraux.
Akwasaga,
c'est quand même
Cubillier,
un champion. Et en défense centrale, j'ai gardé le Douga ou Gravgard. Gravgard, c'est quand même 3,9 millions. Ouais. 3,9 millions Gravgard, c'est quand même beaucoup.
Plus les prud'hommes.
Au milieu. Comment?
Plus les prud'hommes.
Ah oui, voilà, les patrons, ils lui parlent. C'est qu'ils anticipent.
C'est un petit peu le thème de mon équipe, c'est les prud'hommes. Parce qu'après, il y a Williamson qui a eu des problèmes avec la justice pour aller à la Roma, qui a coûté.
Et Williamson, pourtant, avec la Suède, c'était un sacré
très
joueur.
Ouais,
c'est
un bon joueur.
C'est un super 3
millions
joueur.
Et demi, celui-là, de côté.
Enfin, juste pour ça, pour les déboires qu'il a coûté et la fin de l'histoire assédante, mérite l'équipe PIP. Papa Malik Ba et Babovic en récupération. Le Papa Malik Ba, c'était quand même, 4 ou 5 pieds carrés, hein, quand même. Et, Iloki, de l'autre côté, pour prendre la dernière mouvance.
Pauvre Iloki.
Iloki, qui était quand même bien, bien mauvais. Et en attaque, j'ai pris, Bangoura. Pour quand même interdiction d'un an de recrutement, quand même Ismaël Bangoura, et avec Sigthorsson, le joueur fantôme qui retourne à l'entraînement.
Ça, elle est bien cette équipe PIP parce qu'elle est réfléchie, il y a de l'affaire dedans, ça a goûté du blé, il y a eu des galères et tout ça, j'aime ça, c'est travaillé ça. C'est pas juste des mecs qu'on a.
Tu veux dire que Leroux, il a son équipe, était pas bonne?
C'est moche, Daniel.
J'ai pas dit ça, Pierre. Je félicite l'auditeur pour son travail, ça veut pas dire que je dévalue le tien.
Merci beaucoup, Daniel.
Charles, merci en tout cas, bravo.
Merci beaucoup, les gars. Merci, Daniel. En tant que créoliste, j'apprécie beaucoup.
À très vite.
Encore plus maintenant.
Pierre-Yves, merci également.
De rien, on aurait pu citer Mazzoni, Galanza, on m'en envoie là par Twitter. Envoie plein.
Ah bah là, oui, ça doit
tomber. Faire 15 équipes.
Comme ça. Les meilleures équipes type ou PIP tombent souvent une ou deux heures après l'after, quand tout le monde s'y est mis pour de bon. Ouais. Merci Pierre-Yves, bonne soirée. Dans quelques instants, on change le sujet, on va accueillir Grégory Proch. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Je suis né la même année que le PSG ». Mais ça parle pas que du PSG, vous allez voir. C'est très intéressant, on va parler d'identification au club, aux joueurs. Parfois, oui, on peut détester le meilleur joueur de son équipe favorite. Ça peut arriver. C'est dans l'after tout de suite.
RMC Football Show, l'after foot, Gilbert Bribois.
L'after est là jusqu'à minuit, le débat continue pendant la pub dans l'after. Jean-Pierre, un peu de discipline.
Pardon.
Jean-Pierre Nadir est là, fondateur d'Easy Voyage, bien sûr, Daniel Riello, Frédéric Piquion, bien plus discipliné que Daniel et Jean-Pierre d'ailleurs.
Plus d'ordinaire.
Grégory Proch est avec nous. Grégory, bonsoir. Je montre ton bouquin. Je suis né la même année que PSG, non pas que le PSG, que PSG. Donc aux éditions chez Lattès en l'occurrence. Mais d'ailleurs, c'est quoi l'année en question? Parce que des fois, il y a débat.
1970.
Confirmé, 1970.
Ah, pour moi qui suis né cette année-là, il n'y a pas de...
Bon, alors, bien sûr, tu ne parles pas que du PSG dans le bouquin, mais quelle est la démarche, si tu peux expliquer la démarche du livre, ce que tu as voulu transmettre?
Ma dernière formule de vente, c'est l'autobiographie d'un banlieusard qui se croyait parisien.
D'accord.
Puisque tous les supporters de PSG sont à peu près des banlieusards, globalement, et qui sont tous traités de parisiens partout où ils vont. Donc, nous devons...
Tu l'as mal vécu?
Ça dépend des périodes. En ce moment, c'est marrant. S'il y a eu des périodes, ça l'était moins. Vers 2008, c'était vraiment moins marrant. Et avant, j'ai vu tout à l'heure Vahid, quand il est arrivé comme joueur, c'était pas une bonne période, par exemple. 86, 87.
Alors, moi, on va parler d'identification, vas-y.
Ouais, bon, je suis un peu ému parce que ça a été mon bouquin de l'été. Roman que j'ai eu sous la main, bon, le titre évidemment, forcément, ça attire.
Mais tu as vu PSG, tu l'as acheté quoi?
Non, bon, non, la vérité.
PSG, je lui ai envoyé.
Voilà.
Ah d'accord.
La vérité, c'est que je l'ai reçu.
Pas l'acheter quoi. Avec Daniel, il y a sur le bouquin.
Daniel, il achète un bouquin.
Hein?
Ah ben non, j'ai dit c'est le truc de Daniel pendant l'été.
Ah, l'été.
C'est le beach volley pendant l'été, tu vois. Beach volley. Il pense qu'il est un grand champion de beach volley, le gars.
Ça a été mon, parmi ceux que j'ai lus, c'était vraiment celui-là. Évidemment, bon, ça me touche parce que tout ce que tu racontes, je l'ai vécu. J'aimerais dire aux supporters de toutes les autres équipes que ça pourrait les toucher. J'aimerais pouvoir les convaincre de ça. Alors, tu parles tellement, pas que du PSG, mais t'en parles quand même de grands joueurs du passé, de la façon dont t'as grandi avec eux, parce que c'est un roman, hein. C'est pas un bouquin de foot du tout, hein. C'est un vrai roman. Mais j'aimerais pouvoir les convaincre. J'aimerais qu'ils aient la chance qu'un auteur écrive un roman pareil, avec en toile de fond leur club. Parce que je trouve que c'est extraordinaire de revisiter les années. Bon, c'est ta vie que tu racontes. Hein. C'est une autobio, le bouquin en toile de fond. Il y a les champions. Bon, évidemment, t'es capable de faire 4 pages sur Safet Susic. Et pareil, je souhaite aux supporters de Lyon, de Marseille, de Saint-Étienne qu'un auteur leur écrive 4 pages sur un des joueurs phares comme toi t'as fait pour Safet Susic. Tu rends grand des joueurs qui n'ont pas beaucoup marqué l'histoire du club. T'en rends petit des grands. C'est fantastique, il y a toute une galerie de personnages.
Je tombe sur une page par hasard, 170, 87, en mai, avec au moins 3 ou 4 mois de retard sur la date souhaitée, je couche enfin avec une fille.
Voilà, c'est très bien. C'était le titre de l'année précédente.
Alors, on suit l'évolution de la France de 70 à aujourd'hui, ouais. Dans ton livre. C'est autant, il y a toile de fond politique, sociétale, tu revisites tout. C'est un roman qui est super riche, je sais à peine comment en parler, si ce n'est de...
Non, mais moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est le fait qu'on accompagne la vie de son club.
Le PSG doit absolument le lire.
Daniel,
c'est impossible de pas le lire. Non, mais c'est impossible de pas lire ça si tu suis le PSG depuis plusieurs années. C'est pas possible.
C'est pour Fred, alors.
Non, mais vraiment, ouais. T'es obligé. C'est un supporter du PSG doit le lire. C'est une obligation. Rarement un livre.
Attends, je te coupe dans ton long, dans ta longue promotion là.
Promotion
que tu fais à la place de Grégory.
C'est absolument sincère.
Non, mais il y a un truc. C'est comme Jean-Pierre avec Nantes, moi avec Strasbourg. Bon, ben voilà. On choisit pas. Je l'assume totalement.
Un auteur se penche et écrit ça parce que c'est possible avec vos clubs.
Oui, non, mais ce que tu vis, ce qu'on vit dans le bouquin de Grégory, c'est qu'en fait, ton club accompagne ta vie, ton évolution. Tu grandis avec lui. Tu te souviens des galères. Tu te souviens à peu près de ce que tu faisais ou ce que tu vivais au moment des galères.
Exactement.
Comme tu te souviens des joies, où tu dis ah ouais l'année où on a gagné la coupe, ah ouais je faisais ça, je me rappelle, j'étais parti en vacances à cet endroit-là. Et puis voilà.
C'est comme la musique en fait.
C'est un peu ça.
Ouais, lui il met tout. Il met musique, les nanas, la politique, l'évolution de la société, et en parallèle donc tiens cette année-là dans mon club, alors, il y a des années t'as même décroché.
Ouais les années Canal Plus, les années.
C'est marrant, tu décroches ces années-là, mais parce que dans ta vie il se passe des trucs et tu décroches.
Il paye pas l'abonnement.
Il se passe des trucs. on traite comme un chien ça fait Susic parce qu'il faudra quand même qu'on.
Ah oui, cette mise au point historique de Canal qui a maltraité ça fait Susic, c'est terrible pour toi. C'est un coup de poignard.
Ben moi j'ai une photo chez moi de la tribune Boulogne. C'était le seul espace où on a rendu hommage à Safet Susic. Il y a 150 mecs avec 3 pauvres graffitis. Salut l'artiste. C'est dur pour le mec qui a été le héros pendant 8 à 9 ans. Je veux pas dire c'est pas forcément le meilleur joueur du monde à l'époque. C'est notre meilleur joueur du monde. En tout cas, le seul qui de temps en temps est au-dessus du reste de l'équipe. Et on le traite vraiment comme le dernier des chiens, quoi. On aurait presque mérité que l'OM l'achète à notre nez.
Oulala.
Parce que Tapi a essayé de faire ça, naturellement, pour la dernière saison que PSG ne lui a pas accordé. C'est aussi l'arrivée de Canal+, et je peux pas dire qu'à l'époque ça m'est forcément rempli de joie.
Mais pourtant après, il y a des années fantastiques.
Oui.
Ça, tu veux dire, c'est marrant de savoir s'il y a d'autres gens qui ont raté des belles périodes tout en étant supporters de leur club ou qui aiment pas.
Mais pourquoi t'aimais pas Canal concrètement? Quel est le problème?
Susic, il y a pas pardonné.
Non, mais il y a pas que Susic, il y a forcément autre chose.
Il y avait cet aspect-là, mais il était assez facile.
C'était plus le club des fondateurs, c'est un peu ça.
Même pas ça, parce que moi j'arrive un tout petit peu après les fondateurs. Je vais au parc les premières fois en 77, 78. J'ai rencontré depuis la sortie du livre des gens qui y allaient 3 ou 4 ans avant. Donc, c'est même pas ce côté-là. C'est plutôt dans les années 80. être supporter de PSG, c'est un problème identitaire très douloureux, parce qu'on est au mieux un abruti comme tous les supporters de foot, au pire un facho. Mmh. Parce que la seule tribune vivante au Parc des Princes à l'époque, c'est celle de Boulogne.
Mmh. Ben, il y en a pas d'autres,
surtout. Il y en a pas d'autres.
Mmh. Donc t'es là et tu risques des coups, tu vois, risques, enfin, c'est une galère terrible, quoi, d'aller là-bas.
Et en sortant, c'est une espèce de, on baisse les yeux, c'est vraiment pas une position très très simple.
Et le lendemain au boulot, tu dis, tu racontes pas que t'étais au parc la veille, quoi, par exemple.
Ouais,
tu...
mais quand j'ai plus de voix,
ils
se rendent compte. Mais en même temps, dans ces défaites, parce que c'est comme les années 80, il y a un titre de champion et deux victoires en coupe, mais le reste, c'est beaucoup de défaites quand même. Dans ces défaites, il y a une communion des supporters parisiens contre le reste du monde. C'est quand même, il y a quelque chose à établir. Il n'y a aucune équipe en France qui est haïe comme Paris. Quand Marseille est premier, il est un petit peu détesté comme premier, mais dès qu'il est deuxième, plus personne n'en a rien à foutre. Il n'y a plus de haine contre le... Nous, quand on était 17e, 18e, tous les clubs espéraient quand même qu'on descende. Il y a une haine, un sentiment anti-parisien qui est très fondateur pour nous à l'époque, et qu'à partir du moment où il y a Canal+, beaucoup d'argent, beaucoup plus de popularité, des joueurs très sympas, Rai est super sympa, personne ne peut détester Rai. À l'époque, dans les années 80, à Paris, on a quelques joueurs comme Louis qui sont détestables et que nous adorons.
Ah bah ça, par mécaniquement, oui. Je vois comme oui. Ça.
Et c'est marrant parce que dans tous les clubs, tu retrouves des mecs qui aiment des périodes un peu bizarres. À l'OM, ils adorent leur période où ils sont en Ligue 2. T'as plein de
supporters. Mais non, mais ça c'est normal. De ça. La nostalgie de la galère. Mais ça c'est.
Mais je trouve que c'est dans plein de clubs, il y a ces choses-là. Je trouve que c'est formidable, ça, mine de rien.
Et aussi un peu le refus de ceux qui.
Et la nostalgie des joueurs pourris.
C'est vrai, on devrait faire des thèmes, les gens qui témoignent, et d'une ça, mais aussi
le fait qu'il est facile d'aimer une équipe qui gagne, ce qui pour un vrai supporter est une idée insupportable. C'est dans la défaite et dans la difficulté qu'on voit le vrai supporter. Pas quand on gagne, je veux dire, tout le monde aime le.
Voilà, maintenant je veux que chacun fasse son coming out. Est-ce que tu suivais Nantes en Ligue 2?
Bien sûr.
Et j'avais
pris Eurosport pour suivre tous les matchs. On jouait tous les lundis soirs en général, parce que c'est le gros match était de lundi.
Ouais.
Donc j'ai vu quasiment tous les matchs de Nantes en Ligue 2.
Bon bah ça va. Toi, l'ex-joueur, oui. Parce que là, bon, tu nous l'as dit tout à l'heure, ton club c'est le PSG, parce que t'as grandi à Paris. Mais après, bon bah forcément, tu t'identifies là où tu es.
Bien sûr.
Et puis tu joues contre le PSG.
Oui.
Comment tu...
J'ai beaucoup marqué d'ailleurs.
Et comment tu vivais ça?
C'est vrai.
Je le vis en tant qu'adversaire et de joueur, tout simplement. J'ai un boulot, je suis dans un club, je joue pour mon club, que ce soit le PSG ou n'importe qui, c'est comme ça.
Et tu rentres dans le vestiaire, tu demandais le résultat du PSG par exemple, ou t'étais
Non, pas du tout. J'étais pas non plus obnubilé par le Paris Saint-Germain. Mais je suis un passionné du foot aussi. Donc c'est vrai que je regarde tout et.
Mais c'est un regret de jamais y avoir joué.
J'ai failli y aller. J'ai failli signer au PSG quand justement Vaïd est parti de Rennes au Paris Saint-Germain. Il voulait m'emmener dans les bagages, mais ça s'est pas fait. Après un regret, non, parce que je pense que j'ai fait une petite carrière à ma hauteur, mais franchement, non.
Il y avait qui à l'époque?
T'as quand même loupé deux pages dans le bouquin de notre ami. Hein,
ouais.
C'est
quand même
dommage. Il y avait qui à l'époque en attaque, la première année de Vaïd?
Oh là là.
La première année quand Vaïd
en 2000 c'était 2000
joue quand Vaïd entraîne.
Non, c'est 2004. Il entraîne.
2004
quand Fred aurait dû venir
et qu'il avait déjà c'est pas l'état. Jérôme qui joue à gauche,
Jérôme, ouais, voilà. Brian
a jamais signé au PSG, il devait mais il est pas venu, mais c'est pas l'état l'attaquant de ces années-là.
Il y a trois
Pancrate.
Pancrate, c'est vrai.
Ouais. Ah non, c'est pas les
qui a brillé de mille fois.
C'est pas les plus belles années. Mais une question, est-ce que tu crois pas, et bon, ton roman, il y a beaucoup de nostalgie dedans, et les supporters de foot globalement le sont. Est-ce que tu crois à la théorie comme quoi on fait des légendes parfois avec des mecs que très peu de gens ont vus?
C'est plus pratique.
Bah, ton idole, Safet Šušić. Aucun supporter du PSG ne dira Safet Šušić est pas le plus grand. Pourtant, il est. Dans des années, à part celle du titre de 86 où il est fantastique, il est dans des années pas terribles. Honnêtement, je conteste pas le génie, je l'adore. Mais combien de matchs dans une saison il fait réellement?
Mais combien de matchs il nous fait perdre? Il y en a plein.
Le nombre de matchs où il se traîne parce qu'il veut pas se replacer, parce qu'il veut pas courir, parce qu'il hurle sur Louis qui lui fait pas une bonne passe, ou sur les autres après Louis une fois qu'il est parti, sur les milieux de terrain parce que non moi je veux le ballon dans les pieds, je courrais pas pour aller le chercher. Après une fois que je l'ai, je suis génial. Mais bon, après toi, t'es capable de te faire sur YouTube 40 fois d'affilée les dribbles qu'il met à la Juve et en Coupe d'Europe, parce qu'il est fantastique. Mais il y a plein de joueurs dont on fait des légendes comme ça. Il y a Daleb aussi, légende absolue, mais qui l'a vu réellement,
Grégory?
Daleb, on l'a fatalement encore moins vu. Même à la finale de la Coupe 83, il fait une série de dribbles dans la défense nantaise fabuleuse, mais il y a le but de Touré et le but de Souzir qui éclipse à jamais. Ouais.
Et Daleb était un joueur fantastique, mais bon.
Mais le but de Touré qui est peut-être le plus beau but d'une finale de Coupe de France.
Alors à côté de celui de Souzic, c'est rien.
Pardon, Jean-Pierre, faut que tu répondes.
Ce soir-là, le but de Souzic, c'est rien. Non, mais les gars, vous êtes saglés. Le but de Touré, c'est le plus beau but peut-être qu'on ait vu.
Souzic, il le met 500 fois.
Ah non, d'accord. Nous, c'était pas industriel, monsieur, c'est l'artisanat.
C'est comme les retournées d'Amara Simba, ça fait rêver beaucoup de gens, mais bon.
Enfin, Touré, c'était quand même autre chose. C'est en plus, il y a encore qui est mort après, etc., qui fait cette passe. Qui est génial.
Et qui se fait laminer par Souzic, mais un râteau. Vraiment, c'est un des
plus. Vous avez un joueur nostalgie, vous aussi, comme.
Alors, je joue pas à Nantes, malheureusement, pour par rapport à la thématique de ce soir. Ouais. Moi, quand j'ai mon joueur favori, j'en ai parlé plusieurs fois, donc, avec Charles Bietri, qui est la seule personne que j'ai rencontré qui le connaissait, c'était Dragan Vanec, qui jouait à Brest, et qui était un Yougoslave exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un joueur faire ce que faisait ce Vanec. Voilà, il jouait à Brest, donc, on pas très nombreux à le connaître.
Le mec extraordinaire,
moi je le connais, mais par l'équipe.
Oui.
Mais pas, il y avait pas.
Oui, à l'époque, en plus, il n'y avait pas d'image. Donc, effectivement, il y avait très peu de télé.
Ah oui, il y a beaucoup de pages où tu décris la découverte du foot à travers l'écrit, donc les journaux, alors que tu voyais pas les mecs. Et moi, j'ai vécu ça, où je lisais le 11, où il y avait des récits de matchs, même en Amérique du Sud, et les mecs, pour moi, étaient des stars, mais je les voyais pas jouer. Je les voyais pas, mais c'était. Des joueurs immenses, mais parce que c'était écrit que je le lisais, quoi.
Et parfois même par erreur, parce que des journaux comme 11 ou Mondial faisaient, bon, pas du publi rédactionnel, mais enfin, ils étaient rarement critiques avec les joueurs qui présentaient. C'est
ça, moi, j'étais pas assez grand pour juger de ça. Mais quand ils me parlaient des mecs en Uruguay, pour moi, c'est...
Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'on prend certains joueurs... parce qu'on est gamin et qu'on prend au premier degré tout ce qui est écrit, on les prend pour des superstars, puis on découvre un peu plus tard.
Aujourd'hui, dans les supporters de l'OM, ils ont mangé depuis qu'ils sont gamins Skoblar et Magnusson, mais combien les ont vus jouer? Savent qu'ils étaient ou pas? Donc c'est les légendes, mais dans le foot, c'est important, c'est les légendes, ça fait l'histoire des clubs.
Quelques messages là sur Direct Studio, j'ai Bubu qui est mais vous êtes dingues les gars, le plus beau but en finale de Coupe de France, c'est Captain Larquet contre Lens. Et c'est vrai qu'il était magnifique.
Sur ce but dans le nez du foot 75.
Et puis Hussein qui nous dit oui, le vrai supporter est celui qui continue à suivre son équipe dans les moments les plus difficiles. Voilà.
Mais la question c'est est-ce qu'on peut arrêter d'être supporter? Parce que moi, tu vois, je supporte quand il dit Nadir, supporter historique du FC Nantes, c'est plutôt historiquement supporter du FC Nantes. Je vais jamais au stade. Voilà, je lis l'équipe, je regarde les matchs donc à la télé. Mais j'ai toujours supporté Nantes, c'est-à-dire que j'ai 53 ans depuis l'âge donc de 14 ans, parce qu'avant c'était Brest, je supporte cette équipe-là et je m'intéresse, quel que soit le président, quelle que soit la stratégie, et même quand la stratégie je la trouve totalement nulle, ce qui peut arriver, et ben malgré tout, je fais corps avec l'équipe, je supporte pas.
Est-ce qu'il t'est arrivé dans les périodes comme lui il le raconte, et je me suis aussi retrouvé là-dedans, à un moment de lâcher? Tu sais plus pourquoi, dans des périodes de ta vie, 2-3 ans, tu t'es éloigné de ton club, en fait.
Écoute,
tu t'es moins intéressé, t'as moins vu les matchs, t'es moins précis. Si je te demande ça, tu te souviens ces années-là?
Oui, bien sûr. T'as raison, mais malgré tout, j'ai toujours regardé les résultats.
Oui,
j'ai
ça,
toujours regardé le classement. Voilà.
T'as raison.
Parce qu'en fonction de la vie que tu veux que t'as aussi, il y a des choses, il y a des moments où tu décroches même.
Mais lui, c'est marrant, c'est que.
Mais à l'autre bout du monde, j'allais acheter l'équipe pour savoir le Zed Nantes. À l'époque où on avait pas la chance d'avoir Internet, donc j'allais acheter le journal en français pour voir le Zed Nantes. J'étais à Los Angeles et je voulais savoir ce qu'avait fait Nantes. Donc voilà, et on est plein comme ça, et c'est ça qui supportait.
L'édition d'Ouest France à Venice Beach,
parce que je m'intéresse aussi au basket, et donc au CSP Limoges, j'allais acheter le Populaire du Centre à Austerlitz, donc tous les jours pour avoir les résultats pour suivre Limoges et les articles sur le basket.
Question, est-ce qu'il t'est arrivé de changer d'avis sur un joueur au cours de ta vie? Genre à des moments, années 80, quand il joue, j'aime beaucoup moins Maradona que quand il arrête. Par exemple, il y a des revirements dans la vie. Tu t'aperçois bien plus tard qu'il était génial, et sur le moment, t'es pas trop dans le kiff là parce que tu kiffes quelqu'un d'autre. Pardon, moi c'était tellement Platini que Maradona, je le vivais. En plus j'étais jeune, je le vivais un peu comme le rival de. Et à la fin je me dis mais t'es complètement con. Qu'est-ce que tu sors de ça? Il est absolument dingue. Ils sont dingues tous les deux. Ouais. Donc profite des deux. T'es pas obligé. Et j'imagine aujourd'hui il y a des gamins qui doivent. Ah non, moi j'aime pas Messi parce que j'aime Ronaldo. Et toi tu passes à côté. Platini, tu l'aimes pas. Sauf qu'après tu l'adores plus tard.
Attendez, petite pause. Juste avant, toi t'es un joueur nostalgie, Fred. À part Frédéric Piquion.
Ouais, t'avais un joueur que t'adorais quand t'étais môme.
Oui, bien sûr. Moi, j'adorais le roi Pelé. Hein.
Ah, mais tu l'as jamais vu jouer. Mais comme nous.
Pelé, genre joué. Que t'avais des posters, parce que c'est pas ta génération.
Non, j'avais. Bien sûr que j'avais des posters. J'avais les cassettes vidéo de Pelé.
Et tu regardais.
Et bien sûr.
T'avais un papa qui te montrait ça et tout, parce que
exactement.
Ah oui, voilà.
Exactement.
Sinon, après, il y a un truc. Attention. Les Antilles, football brésilien.
Ouais, ah oui. Beaucoup.
Il y a un lien direct
sur elle, c'est important de savoir.
Ouais, j'ai eu un coach que j'embrasse d'ailleurs, peut-être qu'il écoute, Claude Landry, qui est Guadeloupéen.
Tu jouais où en Guadeloupe?
Non, j'ai joué à Charenton, moi.
Ah oui, d'accord.
Aussi à
Charenton. Ah oui, c'est là que t'avais. D'accord.
Et donc, c'est vrai que lui, il avait beaucoup de cassettes de Pelé. Grandi là-dedans.
Mais moi, quelques instants, la même chose, parce que nous à Nantes, on avait Henri Michel, et donc forcément, il y avait toujours le débat entre les deux. D'ailleurs, la légende veut que Platini, en partant de Nancy, aurait pu signer à Nantes, et qu'Henri Michel s'est opposé, en disant non, c'est moi la star, il n'y aura pas de deuxième, ce qui est là, je pense, une petite erreur historique, hein, légère, et Kita aurait pu la faire celle-là, et donc voilà, et donc j'ai évidemment après que Platini, on ne pouvait qu'adorer
le Molinari l'a fait à Metz. Hein.
Platini, moi, je l'ai longtemps détesté parce que quand on est un gamin des années 80, la France n'est pas très foot à l'époque, faut quand même être honnête, il y a des fanatiques,
bien sûr,
mais on passe pour des bourrins. Le sommet de cette non-culture, c'est que si t'aimes le foot, t'aimes Platini.
D'ailleurs, t'établis un rapport intéressant entre Platini et Zidane. On va en parler dans quelques instants avec donc Grégory Proch pour son bouquin « Je suis né la même année que PSG » chez Lattès. À tout de suite dans l'After.
RMC Football Show, l'After Foot, Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec Daniel Riolo, avec Frédéric Piquion, avec Jean-Pierre Nadir, fondateur d'Easy Voyage, fan du FC Nantes, mais pas que, hein. Vous avez vu qu'il aime bien Limoges aussi au basket, par exemple. Et puis, donc, Grégory Prod, je suis né la même année que PSG chez Lattès. Alors oui, Zidane Platini, t'es d'abord une théorie d'identification intéressante entre les deux, là. Parce que c'est toujours l'éternel débat. Qui est le numéro un? Certains disent Platoche, d'autres Zizou, bon.
Je vais évidemment apaiser les débats et trouver une conclusion qui réunira tout le monde pour les 200 prochaines années. Non, mais c'est un débat byzantin de fouteux merveilleux, dont j'espère que chaque année il rebondira encore. C'est un débat aussi idiot et magnifique que Marciano Mohamed Ali.
Il va se terminer quand Mbappé aura gagné 2 Coupes du Monde et 3 Ballons d'Or. Peut-être.
Je pense que c'est la seule conclusion possible. Une conclusion par le haut et avec quelqu'un d'autre qui les dépasserait, qui les submergerait. Parce que on peut aller à l'infini. Moi, je peux dire que Platini est plus fort que Zidane parce qu'il gagne l'Euro 84 avec une équipe dans laquelle, certes, il y a Maxime Bossis et deux ou trois autres immenses joueurs, mais où il y a quand même Yannick Stopira, Bruno Bellone, c'est pas non plus les flèches de l'équipe nationale allemande.
Ah, par exemple, Giresse, Tigana, oui, c'est quand même une sacrée équipe aussi.
Par rapport à celle de 98.
Mais disons que Platini sublimait tout le monde.
Voilà. 98, Zidane, il est dans un fauteuil, il y a que des bons joueurs à peu près à tous les postes au moment où il joue.
Oui, ouais, et lui, dis qu'il a fait
le
un
grand
match.
Zidane, c'est pas 98. Non, Zidane, c'est 2006, à la limite, c'est quand il perd. Le grand Zidane, c'est quand il perd finalement.
Mais d'ailleurs, son plus grand match, c'est contre le Brésil quand il est bas tout seul.
Ça, c'est
un match.
J'entends, mais dans le duel Platini-Zidane, on revient toujours à qui a gagné la Coupe du Monde et qui l'a pas gagné.
Oui, mais ça, c'est ceux qui connaissent pas.
Oui.
Parce que Zidane, il est plus fort quand justement l'année où il a gagné pas. Et là, il est fantastique, absolument fantastique.
Il marche sur l'eau.
Bah, c'est ce qu'on dit. Hein. En 98, ils disent c'est le dernier match quoi, en fait qui retrouve le Zinedine Zidane.
Mais est-ce que tu comprends pourquoi d'un point de vue sociétal, parce que ton livre a ça aussi en fond. Et moi, je l'ai souvent vécu. Pourquoi on a l'impression qu'on peut pas aimer les deux parfaitement ou dire que Platini est supérieur à Zidane, ce qui serait pas fondamentalement un crime, parce que quand tu mets deux mecs en haut d'une montagne, s'il y en a un qui est un caillou en dessous, c'est pas non plus.
C'est qu'une question de prisme. Parce que si on est sur l'esthétique, et puis Zidane est très supérieur.
Oui.
Il a un sens du contrôle, une perfection gestuelle que Platini a sans doute jamais eu. Mmh. Il est évidemment beaucoup plus grand dribbleur que Platini, sans discussion. Mmh. Mais l'autre, c'est un général, c'est un stratège, c'est peut-être un des joueurs les plus intelligents qu'on ait vu sur un terrain de foot, et ensuite, parce que ses positions sur la vidéo, etc., moi, je les trouve assez remarquables.
Non, oui, seulement il va plus loin, il va, ouais, bien sûr.
Il a beaucoup réfléchi, ces questions-là.
Il avait quand même un sens de la passe. C'est-à-dire que, voilà. Absolument. On n'a jamais vu un équivalent quasiment des passes de 40 mètres.
Puis entraîner une équipe, ça, bon, ouais. Ok, bon, voilà, après le débat.
Maintenant, j'ai eu la chance d'interviewer Platini une fois en 2004-2005. Et, bon, évidemment qu'on l'avait titillé sur toutes ces, sur tout cette rivalité, notamment à partir de sa fameuse vanne, Maradona faisait avec une orange que Zidane fait avec un ballon. Il a confirmé l'avoir bien.
Non, mais c'est mais ça, mais je trouve pas que les gens ont joué, mais moi je trouve que c'est vrai. C'est pas ouf de dire ça.
Mais il ajoutait quelque chose qui, moi, me touche encore plus et m'intéresse plus. Il disait que le problème, c'est que les journalistes français, globalement, ont découvert le foot en 98. Là, il parlait des journalistes plus larges que les journalistes simplement sportifs, en disant que lui, il avait vu faire des gris-gris et des roulettes dès les années 70 avec Omar Sanoun.
Ah et oui, c'est elle est magnifique, ton histoire de Omar Sanoun. Tiens,
Et je soulève la question parce que, comme à un moment ou à un autre, je l'ai bien vu sur Twitter, quand ce débat-là se pose, il vient toujours une partie au moins de l'audience pour qui le débat se résume à « Bon, bah, les Gaulois défendent Platini, l'immigré italien qui s'est bien intégré, et les autres défendent Zidane, le maghrébin, parce que je peux pas dire l'arabe, il est kabyle. » Tout ça est beaucoup plus complexe que ça pourrait en avoir l'air comme ça. Et Platini, en citant Sanoun, je sais pas s'il le fait exprès, mais il rend encore plus de complexité, parce que Sanoun est un harki, fils de harki. Donc, on s'aperçoit que le débat sur le plan sociologique, fondamentalement, n'a pas de sens, parce que Zidane n'incarne pas tous les maghrébins de France, et tous les maghrébins de France sont pas obligés de se reconnaître en Zidane. Mais, à un moment ou à un autre, la mauvaise foi aidant, les vannes aidant sur les réseaux sociaux, ça revient à ça. Alors que, ils sont très intéressants tous les deux, très importants, et on oublie, quand on parle de deux, le fait que Coppa, le Polac, ouvre cette grande tradition d'immense numéro 10 immigré, ce qui est quand même très intéressant et peut-être même une spécificité.
Et d'ailleurs, pour la précision, Coppa n'était pas fondamentalement un 10.
C'est vrai.
Mais bon.
Il faut qu'on soit précis dans l'émission. Mais voilà.
Di Stefano l'a beaucoup embarrassé dans ses positionnements. En tout cas, c'est très intéressant que nous ayons, depuis à peu près 20 ans et un climax depuis une petite dizaine d'années. Alors je m'extrais complètement du contexte Charlie, attentat, etc. Que de foot. Mais il y a tout ce qui secoue la société française, identitairement, culturellement, qui traverse le foot à travers cet affrontement-là. Et ce qu'il y a de fabuleux, c'est qu'autant il y a du racisme chez les supporters, puisque le stade n'est qu'un miroir du reste de la société, autant dans le foot, alors je demanderai peut-être à Frédéric comment lui voit ça, j'ai pas le sentiment qu'il y ait tant de racisme que ça entre les joueurs.
Le mot de la fin pour Fred là-dessus.
Non, je trouve pas que non dans le football il y a aucun racisme, on est tous unis entre joueurs, aucun problème.
Et il y a aucun problème entre Platini et Zidane à ma connaissance.
Non,
c'est-à-dire que quand Zidane a signé à la Juve, c'est sur recommandation de Platini.
Exact. Et ça on oublie trop souvent de le dire à quel point Platini a été bienveillant.
On a parfois même inventé un peu des rapports post 98, il y a eu
alors qu'il a été bienveillant et d'ailleurs
il était mieux que ça. Les 6 premiers mois de Zidane à la Juventus sont pas très très convaincants, c'est normal, il y a un temps d'adaptation.
Et Platini est intervenu
pour dire ce type-là va vous plaire vraiment. Il utilise un mot qui est un tout petit peu ambigu en disant il va vous divertir.
C'est pas mal.
D'ailleurs, Platini avait eu une formule magnifique.
C'est fini,
en parlant à un môme, ils étaient à une manifestation et tout. Le môme ne savait pas qui était Platini. Il fait je suis le Zidane d'avant. c'était formidable. C'est génial.
Allez, c'est fini. Tiens, juste pour revenir à notre programme du début de l'after tout à l'heure, un tweet de Karim Benzema que vous voyez sur RMC Sport News là qui réagit donc aux révélations de Mediapart du jour. Vous découvrirez ce tweet également sur RMC sport.fr. Ce monde est-il sérieux, dit Karim Benzema en reprenant quelques phrases de l'article de Mediapart, hashtag give me a break. C'est comme ça que Benzema conclut son tweet. Jean-Pierre, merci d'être venu, à très bientôt.
Merci à vous.
Et bonne chance avec Vaïd. On verra si ça fonctionne.
Samedi.
Grégory, on achète le bouquin. Hein, je suis né la même année que PSG.
Juste glisser un clin d'œil à mes camarades du site Virage, supporters parisiens, qui font un très gros travail sur la culture des supporters, avec des interviews d'anciens joueurs, etc. C'est vraiment très, très 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 bien.
Fred, merci. Toi, tu es dans la maison, donc tu reviendras dans l'after avec d'autres sujets. Et l'after, Daniel revient demain avec le retour de la Ligue 1, juste après le match entre Lyon et Nîmes, me semble-t-il. Lyon-Nîmes demain soir, exactement. La Ligue 1 revient. Allez, bonne nuit à tous.
RMC Football Show, l'after foot.